Parole d'assaut, une émission de Didier Blanc, mixage Gisèle Billon. Aujourd'hui, nous recevons les visiteurs de prison. En fait, ça s'appelle l'ANVP. On vous expliquera pourquoi. Avec pour invité Philippe Riclinck et Éric Durand. Philippe Riclinck, Éric Durand, bonjour. Les visiteurs de prison, cette association ANVP, c'est quoi votre mission exactement ?
Alors, notre mission est de rencontrer les personnes qui sont détenues au centre pénitentiaire, donc en ce qui nous concerne le centre pénitentiaire du Havre, pour essentiellement les écouter et entretenir, maintenir ou recréer du lien social avec ces personnes qui sont donc isolées.
On botte tout de suite en touche avec des choses qu'on entend parfois, les prisons 4 étoiles, les prisonniers qui font du sport, qui ont la télévision, qui ont le téléphone. C'est quoi la prison en fait ?
Eh bien la prison c'est d'abord un lieu de privation de liberté, donc en tant que tel, on imagine difficilement que ça pourrait être du 4 étoiles. Et en plus, les conditions particulières dans lesquelles ça se passe, même s'il y a eu une amélioration, on est encore très loin, même d'un hôtel, une étoile. Donc 4 étoiles, c'est une invention par des personnes qui n'y ont jamais mis les pieds.
Et on imagine toujours, ils l'ont mérité. Il y a quand même des accidents de parcours.
La mission de visiteur de prison, c'est de visiter les personnes qui sont en prison, pas de juger. Donc les personnes qui sont en prison y sont parce qu'elles ont commis des infractions. Évidemment, nous ne les contestons pas. En général, ces personnes ne les contestent pas non plus. C'est pas du tout notre mission de juger. Le jugement a eu lieu. Nous nous adressons à des hommes, à des personnes qui sont enfermées.
Pour revenir sur les lieux communs qu'on a l'habitude d'entendre, j'ai connu un juge d'assises qui faisait visiter la prison aux membres jurés qui allaient juger d'un crime. Et il disait, pour que vous sachiez ce qu'est la prison, avant de donner une peine à quelqu'un, que vous sachiez ce qu'est une prison. En fait, on ne sait pas quand on n'y a pas mis les pieds.
Non, ça effectivement, on aurait du mal à imaginer la situation et le vécu quotidien de ce que personnellement j'appelle les pensionnaires quand je vais les rencontrer, justement pour essayer de les distancier un petit peu par rapport à leur mode de vie contraint. Et je reviens sur ce que vous disiez, il y a eu une faute, il y a eu quelque chose de grave. Il y a une question qu'un visiteur ne pose jamais. Qu'est-ce que vous avez fait pour être là ? Ça, a priori, ça ne nous regarde pas. Nous sommes là pour écouter, pas pour juger, comme le disait Philippe tout de suite. Cela dit, certains détenus ont besoin de le dire. Et à ce moment-là, nous écoutons, et nous écoutons encore.
Visiteur de prison, ça veut dire que certains détenus ne reçoivent pas de visite ?
Tout à fait. Il y a des détenus qui ont été mutés, si j'ose dire, d'une prison lointaine, qui ont changé d'établissement. La famille est loin, et comme les durées de visite, c'est 1 heure, 2 heures, quelquefois, il y a d'autres solutions pour des séjours un petit peu plus long, mais la famille peut être empêchée de venir. Et puis il y a aussi les familles qui rejettent la personne. Tu as fait une bêtise, c'est ton problème, nous on a autre chose à faire. On entend ça. Et puis il y a ceux, parmi les détenus, dont la famille vient les voir, il y a des parloirs, mais qui ont besoin de parler d'autre chose, de parler de façon plus distanciée, et de se reconstruire en étant reconnu par quelqu'un qui n'a aucune dépendance ou obligation par rapport à eux. Et c'est ça qui leur permet de s'exprimer et d'exister malgré tout.
On peut se confier à un visiteur de prison comme on se confie à son psy ?
Comme à son psy, je ne pense pas. En revanche, c'est au fil des entretiens.
Philippe Riclinck.
En général, nous les rencontrons une fois par semaine. La première fois, on se présente. On ne va pas raconter notre vie, mais on va dire un petit peu qui on est, d'où, comment on évolue. On essaie de se présenter de façon désintéressée et on les aide à se présenter tout simplement. Et à partir de là, progressivement, la confiance va s'établir. Si en revanche, on s'aperçoit que la conversation reste stérile, reste vide, que c'est oui, bonjour, merci, au revoir, bah après tout, il pourrait nous sembler important de changer de visiteur, de façon que le détenu trouve quelqu'un avec qui il va pouvoir échanger vraiment librement.
Je voudrais juste rajouter une chose par rapport à la comparaison que vous faisiez avec le psychologue. Il y a un seul point commun, mais qui est quand même important, c'est le devoir, l'engagement de confidentialité. C'est-à-dire que tous les échanges que nous pouvons avoir dans le cadre de nos visites avec les personnes que nous visitons nous comportent de notre part un engagement de confidentialité, y compris par rapport à l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire s'engage à ne pas nous questionner et nous nous engageons vis-à-vis de l'administration pénitentiaire à ne pas diffuser les propos que nous pouvons échanger avec les personnes que nous rencontrons.
En regardant le mur de la prison d'en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos. Boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon, un bout de la tour Montparnasse. L'hiver ouvre les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes. Regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné, les arbres emmêlés s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon.
Qu'est-ce qui fait que on change de région un détenu, qu'on déracine par rapport à sa famille?
Alors, il y a plusieurs raisons possibles. La première, historiquement, je dirais,
Philippe Riclin,
c'est le fait qu'on peut chercher à dérégionaliser certaines personnes détenues en fonction de ce qu'ils ont commis, parce que ça a trop d'imprégnation locale. Donc ça, je pense que c'est historiquement la première raison. Et la deuxième raison, c'est le phénomène bien connu de la surpopulation carcérale qui est endémique en France. Et dans certaines régions, il y a des taux d'occupation des centres pénitentiaires qui sont dans les 150%, avec des gens qui dorment à 3, dont un par terre, dans une cellule. Et dans ces cas-là, l'administration pénitentiaire délocalise pour répartir un petit peu la population, pour éviter cette surpopulation localement.
C'est toujours parole d'assaut.
Ça fait partie des lieux communs, on punit pas assez, on est trop laxiste. Or, on entend la controverse, c'est-à-dire qu'il y aurait de plus en plus de prisons, de plus en plus de prisonniers, des jugements de plus en plus sévères, et donc le laxisme n'existe absolument pas. C'est un lieu commun, c'est encore une fausse idée, ça.
Écoutez, si la prison était un moyen absolument efficace pour éviter la récidive, eh bien toutes les prisons seraient vides, puisque par définition. Donc certes, en tant qu'association, parce que nous avons des activités de visiteurs individuels, mais nous avons une parole collective, notre parole collective est de dire il y a certainement besoin de prison, mais la prison, ça doit être la décision, la punition ultime. D'autres formes de punition, si l'on peut employer ce mot, sont à employer auparavant pour justement avoir plus d'efficacité quant à la récidive, comme ça peut être le cas dans certains pays, même en Europe. Hein, les pays qu'on cite souvent, les Pays-Bas, la Belgique, ont plus une politique orientée dans les peines, ce qu'on appelle les peines de substitution, en dehors des prisons. Bon, la France y vient petit à petit, mais enfin, en tout cas, en tant qu'association, on pense que c'est plutôt vers cela qu'il faudrait s'orienter, non pas vers un laxisme, mais vers des peines qui seraient plus efficaces en termes de prévention de la récidive. Billy Rose was a low rider, Billy Rose was a night fighter, Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car, the local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale, a Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. Cell on a block, he hanged himself at dawn, with a note stuck to the bunkhead, don't mess with me, just take me home, come and lay, help us lay young Billy down. The law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife, while the clothes upon his back were wet.
Il y a une ouverture d'esprit lorsqu'on est bénévole dans une association, on peut être visiteur dans un EHPAD, ce n'est pas toujours drôle, dans les prisons c'est un peu sinistre. En plus, lorsqu'on rentre dans une prison, même si l'on est visiteur, même si on est plein de bonnes intentions, il y a des fouilles.
Alors, effectivement, même les surveillants, un surveillant qui entre dans le centre pénitentiaire, passe son matériel au détecteur rayon X et passe sous un portique détecteur de métaux. Donc, de toute façon, toute personne, même la directrice ou le directeur du centre pénitentiaire, passe au portique de détection avant de rentrer dans le centre pénitentiaire. Donc, nous, en tant que visiteurs, on est tenu d'y passer. Par contre, on pourra en parler tout à l'heure, on a un certain parcours, on est agréé par l'administration pénitentiaire au bout d'un certain parcours, donc on a une entrée qui est un peu facilitée par rapport aux familles, par exemple, on n'a pas de fouilles, etc. Donc c'est un peu plus léger, mais pour revenir à ce que vous disiez, et je pense qu'Eric pourra le confirmer, la première fois qu'on entre dans le centre pénitentiaire, on a quand même le petit pincement au cœur, parce que on a vraiment l'impression de passer de l'autre côté d'une frontière.
C'est vrai que
Eric
nous n'avons pas de fouille au corps, mais malgré tout, nous passons effectivement sous le portique, et cela parce que le visiteur va avoir un entretien en tête-à-tête dans un box isolé avec une personne détenue, mais que le visiteur ou les visiteuses n'ont absolument pas le droit d'apporter quoi que ce soit à remettre aux pensionnaires ou aux détenus que nous allons rencontrer. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas la possibilité de rentrer avec un téléphone portable, par exemple. Il est arrivé qu'on me dise ben, « vous êtes sympa, mais vous allez laisser votre porte-monnaie dans, dans une boîte parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez tenté de donner un euro aux détenus ». Donc, il y a malgré tout un encadrement assez rigoureux des visiteurs, mais c'est aussi cela qui permet de cultiver, si je peux dire, la confiance avec les personnes détenues et avec les surveillants du parloir avocat, avec les personnels de l'établissement. Et de cette façon, notre entretien avec la personne détenue est beaucoup plus détendu que si nous rentrions avec tout ce qu'on voulait dans les poches. La confiance est là aussi, parce que le détenu sait qu'on ne lui refuse pas quelque chose, c'est que nous n'avons pas le droit.
En fait, l'appellation complète ANVP, c'est quoi ?
Alors, c'est Association Nationale des Visiteurs de Prison. Donc, nous sommes une association loi 1901. Et je voudrais juste préciser que dans les prochaines semaines, l'appellation de notre association va changer. Et nous allons devenir l'Association nationale des personnes sous main de justice. Alors ça a double signification. La première, c'est que nous ne visitons pas la prison, mais nous visitons des personnes. Et ça, c'est quand même... dans notre ADN, on visite des personnes. Et la deuxième, c'est que nous allons étendre nos activités dans le cadre justement des peines de substitution. Enfin, nous avons commencé déjà à étendre cette activité à l'accompagnement des personnes dont la peine se réalise en dehors du centre pénitentiaire, hors les murs, comme on dit. Et donc, afin d'intégrer la prise en charge de ces personnes dans la dénomination de l'association, nous allons donc nous appeler Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice, puisque même en dehors des murs, ces personnes sont prises en charge, ou leur parcours est pris en charge par le système judiciaire.
D'un mur à l'autre, les yeux baissés, tu comptes tes pas. Des heures, quand c'est l'hiver, on soupiraille, on voit dehors fuir les bagnoles, mais au printemps, les feuilles des arbres du boulevard. La vue d'un écran glauque jusqu'au ciel. Ce soir encore, je te dirai comme j'aime ta nuque. Cheveux noirs, fermant les yeux, tu ricaneras aux mots idiots du simulacre. Comme à chaque fois, tu me diras salut les pédés d'occasion. Avant de nous faire reluire dans la violence de l'extase.
On vous contacte comment pour donner un coup de main ? Les associations ont toutes besoin d'argent, mais aussi de bénévoles.
Oui, alors nous, on a essentiellement besoin de bénévoles depuis un an, et c'est certainement pour ça que vous avez entendu parler de nous. On a entrepris une campagne de communication au niveau du Havre, parce que le centre pénitentiaire du Havre, malheureusement, n'est pas suffisamment servi en visiteurs. Donc pour nous contacter, il y a le site national de l'association, puisque nous sommes une association nationale, donc il suffit de taper ANVP sur Internet et on trouve le site de l'association où on peut faire connaissance avec l'association, ses moyens, ses valeurs, son organisation, et puis laisser un message de contact, il y a un formulaire de contact, ou alors tout simplement contacter anvp.lehavre@outlook.fr.
Vous avez un site où vous vous retrouvez, les bénévoles, pour travailler, pour discuter, pour échanger?
Alors, vous parlez de site internet, un endroit?
Un endroit, oui.
Alors, nous n'avons pas d'endroit, nous sommes une association nationale. C'est vrai que notre pratique est assez individuelle, mais nous nous retrouvons régulièrement, donc tout d'abord sous l'égide de l'administration pénitentiaire, donc le service, le SPIP, qui est donc dans l'administration pénitentiaire notre partenaire, qui d'un point de vue statutaire est tenu de nous réunir au minimum 3 fois par an, et nous nous retrouvons entre nous également pour partager un petit peu les difficultés qu'on peut avoir, parce qu'il y en a. Et alors, ce que je voulais mentionner aussi, nous avons ce qu'on appelle un groupe de parole, comme beaucoup d'associations d'écoute, parce que l'écoute, c'est parfois quelque chose qui peut être lourd, qu'on a besoin de partager, et donc nous avons un groupe de parole qui est animé ou accompagné, disons, par un psychologue, une psychologue en ce qui nous concerne au Havre, où nous pouvons échanger pour désamorcer peut-être parfois des situations d'écoute un peu difficiles, comme le font toutes les associations de bénévoles qui ont une position d'écoute, hein, que ce soit en soins palliatifs, les gens qui font SOS Amitié, etc., ont tous besoin de lieux où ils peuvent partager les difficultés qu'ils peuvent avoir, et comme je disais, un petit peu désamorcer des écoutes qui peuvent parfois être un peu difficiles, parce qu'il faut reconnaître que parfois on entend des choses qui sont difficiles, qui ne sont pas forcément liées à ce que la personne a commis, mais ce qu'elle ressent, ou ce qu'elle subit, ou ce qu'elle pense, qui peut parfois être difficile à entendre.
Nous sommes toujours avec Didier Blons.
Les peines au Havre, la prison du Havre, ça va de combien à combien ?
Je ne saurais pas vous dire la fourchette complète, mais moi je rencontre des personnes dont la peine varie entre 18 mois et 15 ans. Le centre pénitentiaire du Havre dispose d'une maison d'arrêt qui est pour les périodes de peine inférieure à 2 ans et d'un centre de détention qui s'adresse aux peines supérieures. Par contre, ce qu'il n'y a pas au Havre, c'est une unité de sécurité renforcée pour les peines plus longues ou les profils plus difficiles, disons. Ça n'existe pas au Havre.
Rêveuse parloir, le cellule en couloir. De courage en espoir, de rage au désespoir. Rêveuse parloir, dans votre vie placard, sans ciel, sans fleurs, sans berceau, vous baignez des oiseaux derrière vos barreaux. Rêveuse, petite rêveuse de parloir, orpheline de la dérive, des lits délinquants. Braquage, stup et stupéfiante, petite fille sans square, décide des trottoirs, de galère en galère, de rêve en poussière, cassée, brisée, balancée, rêveuse parloir, sans soleil, sans maison, sans enfant, vous n'avez plus rien, le bruit des clés, des grilles qui claquent, rythme faux vie métallique. Verrou verrouillé derrière la lumière, vous peignez des bateaux qui vous traversent, de l'autre côté des barreaux. Rêveuse parloir, voyageuse de l'espoir, je pense à vous, je pense à vos regards, je pense à vos rires, je pense à vos larmes, à vos filles de femmes sans amour. Pense à vous qui marchez vos vies, de courage en espoir, de rage en désespoir, vers la lumière au bout du couloir. Toi la petite Bonnie, Julie,
Fatima, la fille d'Aidé, la femme à Fredo, la diant, hurra la petite Victoria.
Mon rôle étant de faire le candide, est-ce que des visiteuses peuvent rencontrer, visiter des détenus? Et des visiteurs peuvent-ils rencontrer des détenus, eux?
Alors, au niveau du Havre, on ne peut pas rencontrer de détenus, eux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de détenus, eux, au Havre. Mais bon, la prison de femmes la plus proche est à Rouen. Par contre, nous avons des visiteuses au Havre, donc des visiteuses peuvent rencontrer des personnes, des hommes. Donc
il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Non, il n'y a pas de problème. Alors, on n'est pas naïf. Les relations hommes-femmes en dehors du centre pénitentiaire et du milieu pénitentiaire peuvent parfois être problématiques, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas l'être en détention. On n'est pas naïf, mais par contre c'est tout à fait possible, comme c'est tout à fait possible d'avoir des relations hommes-femmes, je dirais, normales en dehors du centre pénitentiaire.
Il n'y a pas que votre association qui visite les prisons. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer d'autres associations?
Gisèle Billan.
Oui, ça nous arrive. Alors, je vous parlais tout à l'heure de nos réunions de groupe que nous avons au niveau du Havre. Or, moi, ça fait 3 ans que je suis correspondant, enfin animateur, si on peut dire, du groupe. Et j'ai essayé effectivement de faire venir à nos réunions d'autres intervenants. Je voudrais en citer un, parce que ça me tient pas mal à cœur. C'est ce qu'on appelle le relais enfants-parents, qui sont des gens qui interviennent en milieu pénitentiaire pour essayer de préserver le lien familial. Hein. Il y a des papas qui sont enfermés au centre pénitentiaire du Havre et qui ont du mal à rester en contact avec leurs enfants pour tout un tas de raisons. Et donc le relais enfants-parents intervient pour faciliter cette relation, ou la poursuite de cette relation entre les papas et les enfants donc, qui sont en dehors du centre pénitentiaire.
Et puis, il y a aussi des gens qui rentrent à la prison pour enseigner. Je pense en particulier à une personne qui est écrivain public. Il y a parmi les détenus des gens qui ne savent ni lire ni écrire.
Éric Durand.
Mais il faut bien pouvoir échanger avec la famille, avec l'extérieur.
Penser à la sortie aussi.
Et penser à la sortie. Donc, c'est cette personne écrivain public. Il nous arrive de la croiser, elle vient au parloir avocat, comme nous, et elle rédige sous la dictée du détenu, de la personne détenue, et puis éventuellement, elle va lire la réponse, qui sera reçue quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc nous les croisons. Pôle emploi est également présent à la prison, la mission locale est également présente à la prison, et je dirais, nous n'avons pas, enfin en tout cas moi, je n'ai pas de relation particulière avec eux, mais n'empêche que lorsqu'on se croise dans le couloir du parloir avocat, « Ah tiens, vous avez vu un tel ?» Alors, on ne se raconte pas tout dans le détail, bien sûr, mais comment l'avez-vous compris? Comment se comporte-t-il en ce moment? Et ça, c'est la seule chose qui peut sortir de nos entretiens avec une personne détenue, c'est l'alerte que l'on pourra donner au service pénitentiaire d'insertion et de probation, au SPIP, en disant « Faites attention, j'ai trouvé que M. Duchemol a un moral dans les chaussettes, il est très, très abîmé, surveillez-le, contrôlez-le. » Et je dois dire que la plupart du temps, lorsqu'on dit ça au surveilleur du parloir avocat, c'est la seule chose qui va sortir de notre entretien. Lorsqu'on dit ça, la réponse est très souvent « Bon, vous confirmez l'impression qu'on avait. » Donc il y a, c'est, je dirais, non seulement l'accompagnement, mais aussi une vigilance par rapport aux situations de détresse absolue qu'ils arrivent à nous livrer, alors qu'à l'intérieur même de l'établissement, bien entendu, ils gardent ça complètement pour eux.
Un travail passionnant, il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire. Notre émission se termine, c'était le 77e Parole d'Assaut, une émission de Didier Blons, mixage Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions les visiteurs de prison, ANVP, avec pour invité Philippe Riquelinck et Éric Durand.
Merci.